Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur Art District pour une nouvelle bulle d'histoire. Je reçois aujourd'hui via Skype, maintenant depuis quelques temps, c'est le principe qu'on a adopté puisque nos studios sont toujours fermés pour cause de parasites. Je suis aujourd'hui avec Cyriel pour un album absolument, j'allais dire merveilleusement beau, mais on va en parler parce que l'histoire ne l'est pas du tout. Cyriel, vous publié donc Radium Girl, c'est publié par les éditions Glénat. Avant de parler donc de l'histoire de ces femmes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et d'où vous venez ? Parce que c'est votre deuxième album de bande dessinée.
C'est mon troisième.
Ah, troisième.
Mais il n'y a pas de souci, je vais refaire la genèse de ma vie. En fait, à la base, je suis graphiste de formation. J'ai officié comme directrice artistique dans un web magazine qui s'appelle mademoiselle.com. Et je faisais aussi des chroniques dessinées qui s'appelaient les chroniques de Cyprine, qui parlaient de sexualité, qui sont devenues ensuite des bandes dessinées, donc qui s'appellent Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et tome 2, qui parle de sexualité sur base de témoignages où le but est de déculpabiliser en montrant, en fait. Donc ça n'a pas pour portée à s'émoustiller, hein. Les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà, le but c'est juste de montrer. Puis ensuite j'ai participé à un collectif qui s'appelle Cher Corps. Et puis voilà, et puis après Radium Girl est arrivé. Bon, il y a eu d'autres petites choses autour, mais bon.
Vos albums sur la sexualité, c'est publié par les éditions Lapin, je crois.
Tout à fait.
C'est pas forcément très émoustillant, mais en tout cas, c'est léger, c'est drôle, c'est plein de bonne humeur, c'est vraiment des tranches de vie comme quasiment on a tous pu en connaître, donc c'est assez réjouissant à lire.
Eh ben, merci, ça me fait plaisir.
Donc on va parler de Radium Girl. Avant de rentrer dans l'histoire, qui sont les Radium Girl et comment vous avez découvert l'histoire de ces femmes ?
Alors, les Radium Girl, c'était des ouvrières dans l'industrie, on va dire, horlogère. C'est même pas horlogère parce qu'elles peignaient les cadrans, donc bon, on va dire ça. C'est des ouvrières qui peignaient les cadrans de montres avec une peinture très spéciale, une peinture au radium qui leur permettait d'être phosphorescentes dans le noir. Le radium, on en a déjà entendu parler. C'est Marie Curie qui a découvert cet élément phare, mais qui au final, comment dire, n'est pas devenu juste un élément dans la médecine, parce qu'ils en ont foutu partout au début du siècle dernier aux États-Unis, mais aussi en France, hein, parce qu'on parle des États-Unis, mais en Europe aussi. Hein, la fièvre du radium a fait son effet aussi outre-Atlantique. Et le radium a donc énormément de propriétés, mais est aussi très très dangereux, chose qui a été très ignorée. Et donc ces femmes qui peignaient les cadrans de montre utilisaient une technique bien particulière qui s'appelle le lip pointing, de lissage de pinceau entre les lèvres, et donc ont ingéré continuellement du radium, faisant d'elles des bombes à retardement au niveau santé.
Donc, oui, c'est-à-dire qu'elles humectaient le pinceau entre leurs lèvres, ensuite elles prenaient une petite quantité de peinture pour peindre donc les numéros des cadrans de montres. Donc ce sont des femmes extrêmement modestes, dire, parce que c'est un travail d'ouvrier à la chaîne. Ouais. Les cadences sont assez infernales quand vous racontez qu'elles doivent peindre 250 cadrans par jour. C'est inhumain.
Bah, c'est énorme. Après, c'était des micro-cadrans aussi. Parce qu'en fait, j'essaie d'imaginer que c'est un cadran de montre. C'est pas des cadrans énormes. 250, c'est quand même une charge de travail quand même très, très grande, hein. Surtout au niveau de la minutie, etc. Donc oui, elle venait d'un milieu modeste, middle class bas. Plutôt la partie basse de la middle class. Et je les ai découverts au détour d'un article posté sur Internet qui est passé sur un de mes fils d'actualité sur les réseaux sociaux, quoi.
Oui, juste pour revenir au radium, il y a quelques reproductions dans la bande dessinée, mais aussi j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Il y a des laines au radium, il y a des habits au radium, il y a des dentifrice au radium. J'ai vu qu'il y a aussi des crèmes de beauté au radium. On connaît la fin de l'histoire, mais ces femmes ne savent pas du tout ce qui va leur arriver.
Ah non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment, je fais une analogie parce que beaucoup m'ont dit, mais elle devait s'en douter quand même. Et je fais, non. C'est comme si de nos jours, on nous disait que l'aloe vera était cancérigène. En fait, l'aloe vera, par exemple, on en a partout. De nos jours, on a des vêtements à l'aloe vera, cosmétiques, de la bouffe à l'aloe vera et tout. Pareil, c'est vraiment exactement la même chose. Donc, à l'époque, vraiment, c'était l'élément miracle qui va te faire un beau teint, qui va te protéger. Se faire irradier n'était pas pris dans le mauvais sens du terme. Et qui, bien après, on savait déjà, Marie Curie savait déjà que c'était dangereux, mais le truc lui a échappé vu qu'elle s'était déjà brûlée au radium. Mais elle ne pouvait absolument pas le savoir, surtout que il y avait des pubs pour ça, quoi. Donc ou l'eau de coco, voilà, pareil, de deux jours. Si on vous disait que l'eau de coco était cancérigène, je pense que vous ne seriez pas attendu ne serait-ce que deux secondes.
L'autre chose qui est troublante dans votre album, c'est que nous, évidemment, on connaît la fin de l'histoire, on en sait beaucoup plus que vos personnages, et qu'en même temps, ces peintures au radium, c'est aussi une forme de modernité, parce que ces femmes, elles sont jeunes, donc elles vont danser le jazz dans des clubs, elles s'habillent à la mode. Il y a cette espèce de paradoxe d'une modernité très, très mortifère.
Oui, elles ont... en fait, ce qui est terrible, c'est que ça leur a coûté la vie, mais avant de leur coûter leur vie, ça leur a fait goûter à cette sensation de liberté d'avoir un pouvoir d'achat et de pouvoir ne serait-ce qu'un peu s'émanciper. Et c'est parce que, elles avaient un meilleur salaire que l'époque. Souvent, je dis que c'était l'équivalent... En fait, ce n'était pas des simples entreprises, vu que le radium coûtait très cher à synthétiser. C'est comme si elles travaillaient chez Dior ou Lanvin. C'est des petites mains, mais qui travaillent dans une usine prestigieuse, avec un salaire un peu plus haut que la norme qui était donnée à des femmes ouvrières. Donc, c'est ça qui... En fait, globalement, tout se paye dans cette bande dessinée. Tu veux goûter à la liberté, le retour de bâton sera immédiat. Et cruel.
Tout ça, c'est dans un système capitaliste assez dur, assez sauvage. Est-ce qu'il y a des gens dans l'entreprise qui savaient que cette matière était si dangereuse ?
Alors, il y en a... En fait, le créateur de la peinture de Dange le montre d'ailleurs, leur dit à un moment, ne faites pas ça, donc ne faites pas le mouillage aux lèvres, donc le lissage du pinceau entre les lèvres, comme ce qu'on disait juste avant. Tout ça, c'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses qui ont été, c'est des propos qui ont été rapportés dans les journaux intimes de ces Radium Girls. Donc vraiment, ça a été dit et tout. Donc suspectés, bien évidemment. Et puis, autre chose aussi, à l'étage, les hommes, parce qu'en fait, les femmes peignaient et les hommes synthétisaient le radium, eux, ils avaient des tabliers en plomb, des gants, des masques, voilà. Et donc, c'est à se demander s'il n'y avait pas déjà une très belle dissonance cognitive de se dire que quand ça synthétise, c'est dangereux, mais une fois qu'on l'a mis dans une petite boîte, ça ne l'est plus. Non, enfin, voilà, il y avait ce truc-là où, je pense, ils le suspectaient déjà dès le début, mais bon, et ça, en fait, on ne connaissait pas, on devait suspecter la dangerosité, mais on ne savait pas quels étaient les symptômes que ça allait entraîner. Et vu que c'était des femmes qui ont commencé à mourir en premier, mais qui s'en fout, quoi, à cette époque-là ? qui s'en fout, cette population négligeable que sont les femmes à cette époque-là ?
Et on a vraiment l'impression de ça dans la BD. C'est que, effectivement, les gens qui manipulent sont un peu des scientifiques, donc sont des gens précieux. Mais qu'en revanche, les femmes, il y en a tellement qui cherchent du travail que peu importe ce qui leur arrive, quoi.
Oui, et puis aussi, c'est des castes hautes. Les personnes qui ça leur profite, c'est les dirigeants de l'entreprise. C'est toujours la même chose, hein, parce qu'on parle de... On parle de ça, c'était en 1920, c'est la même chose, c'est les mêmes gimmicks qu'il y a maintenant avec des patrons d'entreprise qui vont verrouiller des scandales sanitaires pour faire perdurer leur entreprise. Hein. On peut parler de plein de scandales, on peut faire plein de parallèles avec l'amiante, le scandale du téflon, enfin il y en a, on peut en trouver des centaines des parallèles à ça.
Alors, avant d'aborder le côté dramatique de la bande dessinée, il y a quand même le tout le début est très joyeux, très insouciant, parce que ce sont vraiment des jeunes femmes. On est aussi en pleine période de la prohibition, et malgré tout, elles arrivent à rentrer dans des speakeasy pour consommer de l'alcool. Voilà, il y a ce désir de vie très, très puissant. Mais il y a aussi des instants très comiques, parce qu'elles ont aussi un autre surnom qui est Ghost Girl.
Et ben, comment on devient une Ghost Girl ? Et ben, c'est tout simple, il suffit juste d'intégrer une entreprise de radium, parce que cette poudre qu'elles utilisaient, en fait, on a tendance à voir une peinture, mais en fait c'était une poudre qu'elles mélangeaient soit avec de l'eau, soit avec de la colle, et ça veut dire que c'est comme chez vous, hein, c'est comme chez vous avec de la poussière. Hein, bizarrement, quand on secoue un édredon avec de la poussière dessus, ça rentre en lévitation en fait dans la pièce. Et c'était pareil pour le radium. Il faut savoir qu'elles étaient recouvertes en fait de poudre de radium. Alors c'est encore plus terrible quand on sait les dommages que faisait le radium. Mais elles, ça les faisait beaucoup rire parce que être recouverte d'une poudre phosphorescente, ça veut dire que dans le noir, nous sommes phosphorescents. Et donc elles s'en amusaient beaucoup quand elles sortaient la nuit des entreprises en hiver. Et elles étaient lumineuses. Et ça les faisait beaucoup rire. Et aussi parce que elles étaient jeunes. C'était quand même des femmes qui avaient entre 18 et 25 ans au grand maximum, qui n'étaient pas mariées, qui voulaient s'amuser. Et donc elles étaient insouciantes. Donc elles se sont beaucoup amusées à se peindre les ongles, les dents, le visage avec cette peinture, et il fallait pas qu'elle se fasse prendre par contre, parce qu'elle coûtait très très cher cette peinture. C'est comme si elle se recouvrait de feuilles d'or, ça valait même plus cher que l'or quand même. Donc voilà, mais ça les faisait beaucoup rire. Et quand on sait, nous on sait, et ça rend le propos encore plus terrible. Mais bon, l'intérêt c'était aussi de montrer cette vitalité que ces femmes, que ces jeunes femmes ont eue.
Il y a un épisode, je me suis demandé si c'était vrai ou si vous l'aviez inventé, c'est l'épisode qui se passe dans un cinéma.
Ah ça, c'est marrant parce qu'on m'en parle beaucoup, mais alors non, moi cette partie-là, parce que les checkpoints historiques, tous les checkpoints en rapport avec l'histoire du radium, tout ça c'est véridique. Toutes les femmes ont existé, tout ça a existé. L'histoire, par exemple, à un moment je l'ai fait aller au cinéma, ça je l'ai inventé. Ça veut dire que potentiellement elles sont allées au cinéma, je ne sais pas. Et à un moment je l'ai fait aller à Coney Island, j'en ai aucune idée si elles y sont allées. Potentiellement elles auraient pu y aller, parce que de toute façon, la jeunesse y allait, mais qui me dit qu'elles y sont vraiment allées ? Je ne sais pas, c'était aussi pour leur donner du corps. Je sais juste qu'elles se sont bien marrées. Par contre, quand elles se peignent les doigts et qu'elles se peignent les dents, ça c'est véridique. C'est pas moi qui l'ai inventé. Le surnom Ghost Girl, ce n'est pas moi non plus qui l'ai inventé, vu que c'était leur premier surnom. En fait, il y a certaines choses aussi où j'ai fait des entorses, et l'entorse aussi que j'ai faite, parce que faut quand même avoir un peu de, enfin faut que ça soit véridique et qu'on sache sur quelle base on est. Toutes ces femmes ont existé, elles se sont toutes retrouvées au procès. L'entorse que j'ai faite pour la narration, c'est de les avoir fait travailler ensemble. Parce que, il s'avère qu'il y en a quatre, c'est assuré, elles se sont connues, elles ont été amies, ce sont les trois sœurs, Madja et Grace, parce que Grace était amie avec Molly Madja. Mais les deux autres, Catherine et Edna, leurs traces ont commencé à arriver vers le procès. En fait, c'est les six filles qui se sont, enfin les cinq filles, qui se sont rassemblées pour attaquer en procès. Donc, elles se sont forcément connues. De là à dire qu'elles ont été amies, les quatre, oui, assurément, mais les deux autres, pas forcément. C'était une entorse sur la narration.
Oui, mais on a aussi besoin de ça pour
s'identifier,
rentrer dans le groupe et participer à l'énergie de l'époque, etc. C'est aussi le moment où les Américaines vont obtenir le droit de vote. Donc il faut quand même venir au côté dramatique de cet album, parce que tout le début, donc je disais, est très insouciant, très joyeux, très énergique. Mais à un moment donné, elles sont rattrapées par les radiations et par les dégâts que fait ce produit sur le corps. Et là, je dois dire qu'en tant que lecteur, c'est particulièrement réussi parce que, comme je disais au début, on en sait plus que les personnages et on sait exactement ce qui va leur arriver. Et là, je trouve que c'est un, comment dire, une astuce de narration qui est extrêmement puissante et extrêmement bien réussie.
Eh ben, merci. Et aussi, justement, juste pour revenir sur la partie au début qui voulait être lumineuse, en fait, c'est aussi quelque chose qui était voulu. J'avais envie de donner du corps à ces femmes. Et en fait, on avait tendance à les ranger derrière l'étiquette de victime. Mais victime, ce n'est pas une identité. Mmh. Et donc, j'avais envie de leur redonner du corps et de la profondeur. Et surtout, si ce que je voulais, c'est que le lecteur et la lectrice s'attachent, qu'on s'y attache, et que quand elles commencent à avoir des problèmes, comme vous le dites, commencent à avoir les séquelles, etc., qu'on soit terrifié et énervé. Enfin, moi, si j'arrive à provoquer de la colère, je suis tellement contente, parce que la colère, c'est tellement fort comme émotion. Donc, je suis très contente si ça a développé ça.
Je ne sais pas si c'est de la colère, mais en tout cas, c'est plutôt de l'effroi, quoi.
Ouais, de l'effroi, ouais. De l'injustice aussi.
Bon. Pour arriver au côté tragique, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les conséquences sur le corps de ces femmes et comment la maladie se développe, parce que c'est vraiment terrifiant, quoi.
Alors, en fait, le radium a un côté très pernicieux. C'est que je raconte pas forcément tout ça dans la bande dessinée, mais je pense que c'est important de le rajouter. Oui, c'est que le radium, avant de t'irradier et donc te tuer, il te booste l'organisme. Ça, c'est vraiment vicieux. Il booste la création, mais la, si on va dire ça, j'ai pas le terme, mais en gros, il booste les globules rouges, ce qui fait qu'on pète la forme. C'est vraiment bien. Et après, bam, contre-coup, et en gros, le radium assiège la moelle des os et irradie de l'intérieur, ce qui entraîne des tumeurs. À la base, elles ont toutes surtout. Les premières choses qui sont visibles, c'est qu'elles se retrouvent à perdre leurs dents, à avoir, après ça s'attaque à leurs os, et ça crée ensuite plein de choses différentes, tumeurs, raccourcissement des jambes, pulvérisation des colonnes vertébrales, des choses comme ça. C'est terrible, en fait, vraiment, elles se dissolvent littéralement, en fait. C'est le principe du radium sur le corps humain.
Donc le radium a des conséquences sur la santé de ces femmes, ça va les faire mourir, mais il y a d'autres conséquences qui sont tout aussi terribles, c'est que ça a des conséquences sociales, puisque se soigner coûte extrêmement cher.
Tout à fait.
Et comme on l'a dit au début, ce sont des femmes modestes, elles n'ont pas forcément les moyens de se soigner. C'est un peu une double peine terrible, ça.
Ah, tout à fait. Et puis au-delà de ça, en plus, au tout début, vu qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'elles avaient et que c'était des femmes et qu'on s'en foutait... Eh ben, ils n'ont pas cherché bien loin, et au-delà du fait qu'elles ne pouvaient pas se soigner et que clairement c'était incurable, vu qu'on n'a pas trop cherché au début, on leur a dit elles perdent leurs dents, ça ressemble à la syphilis. Allez hop, c'est la syphilis. Sauf que la syphilis, c'est vraiment par excellence la maladie de la honte, surtout des femmes qui n'étaient pas mariées et qui se retrouvaient à avoir cette marque de comment dire, de la honte, quoi, enfin vraiment dans cette société. Donc vraiment, il y avait cette double peine. Les soins, effectivement, étaient très chers, comme ce qu'ils sont toujours aux États-Unis. Ouais. Et en fait, elles se retrouvaient en plus handicapées, invalides, enfermées chez elles, et pour payer les soins, devaient hypothéquer leur maison, etc., emprunter de l'argent pour clairement une fin très approchante. Donc, de toute façon, c'est pour ça que cette histoire est une lente descente aux enfers. Pas du tout. Ça a été très très rapide. C'est toute la perversité aussi du radium, c'est que le radium, agit très vite. Le parallèle aussi que je fais, c'est que l'évolution du radium sur le fait qu'on l'a utilisé et qu'après on l'a proscrit, c'est un peu comme la cigarette, sauf que la cigarette, ça a mis 80 ans à ce qu'on se rende compte que c'était mauvais, là où le radium, ça a mis à peu près 20 ans maximum.
C'est-à-dire que le radium, ça tue à tous les coups, quoi.
Ah oui, c'est... Et puis vraiment, c'est un compte à rebours, c'est ça qui est très ironique pour les... pour des femmes qui peignaient des cadrans de montres, c'est que vraiment, à partir du moment où elles ont léché leur premier pinceau pour affiner le pinceau, c'est fini, c'est acté. Elles ont ingéré du radium, le compte à rebours est lancé, quoi qu'il arrive.
Donc comment va se finir cette histoire ? Parce que vous racontez qu'il y a aussi quand même des médecins qui sont des gens intelligents, qui vont se rendre compte que c'est pas la syphilis, c'est que même si le mal est incurable, on peut quand même soulager, ou en tout cas tenter de soulager ces femmes. Il y a aussi un procès comme on peut connaître actuellement avec le médiateur, avec l'amiante et tout ce genre de choses, mais c'est très long. Mais il y a quand même une fin de justice.
Alors, pas pour elle.
Non, pas pour elle.
Pas pour elle, parce que là encore, très ironique, l'entreprise a joué la montre. C'est vraiment terrible. Ou en gros, ils attendaient juste qu'elle y passe, clairement, parce qu'ils savaient que le temps était compté. Mais effectivement, il y a eu des médecins qui se sont penchés, un avocat qui a bien voulu les représenter. Et ça a été une très longue. Je le représente assez rapidement, mais ça a été une très longue quête pour l'une des héroïnes qui cherchait un avocat. Et à la fin, ça a été. Leur combat a permis à d'autres Radium Girls de remporter leur procès, mais elles n'ont pas remporté leur procès. Il y a eu un arrangement à l'amiable. Donc en l'occurrence, quand même, leur combat n'a pas été vain, parce qu'elles ont permis à une Radium Girl de l'Illinois de remporter son procès.
Oui, et puis que ça a eu des conséquences pour d'autres combats sociaux, avec une jurisprudence qui s'est installée.
Et il y a eu, ça a impacté les lois américaines sur la protection des travailleurs par rapport aux maladies au travail, et un organisme de protection des travailleurs qui s'appelle l'OSHA. Voilà, ça a amené à ça aussi.
Donc on a beaucoup parlé d'histoire. Avant de se quitter, je voudrais quand même qu'on parle de votre dessin. Mm-hmm. Parce que donc, je ne connaissais pas très bien votre travail. Là, j'ai découvert dans Radium Girl à quel point il était à la fois très précis, très sensible, en même temps très envoûtant, parce qu'on est embarqué dans cette histoire beaucoup par le dessin, et pas seulement par l'histoire de ces femmes. Pouvez-vous nous parler de votre technique, parce qu'on en parlait avant d'enregistrer, donc vous dessinez au crayon de couleur, ce qui n'est pas très courant dans la bande dessinée quand même.
Il y en a un qui est sorti en même temps, c'est Anaïs Nin, sur le crayon de couleur. Mais oui, c'est vrai, moi, ma technique, c'est du crayon de couleur aquarellable à sec, qui permet de déposer beaucoup, beaucoup de pigments. C'est pour ça que beaucoup de personnes se demandent si c'est du pastel. Non, c'est du crayon de couleur. En fait, c'est une technique que j'ai développée quand j'étais encore à l'école. Donc, ça remonte à une paire d'années maintenant. Et je ne sais pas, c'est quelque chose qui... Quand on me demande pourquoi j'ai utilisé cette technique, je saurais même pas l'expliquer, parce que ça s'est imposé à moi directement. Et je me suis dit que ça rendrait un grain particulier, et ça permettrait de donner un peu de profondeur, entre guillemets, dans le trait. En plus, on peut parler limite de profondeur de pigment, parce que sur certaines planches, il y a 5 couches de pigments différents. Donc, vu que je travaille un peu par strates, où je remonte les couleurs au fur et à mesure, il commence à y avoir une couche de pigments sur certaines planches. Et mon but, c'était un peu ça, et aussi de travailler avec une gamme colorimétrique très réduite. Il y a 8 couleurs différentes, plus le vert qui symbolise le radium. Donc voilà, c'est une gamme colorimétrique qui part du bleu jusqu'au violet. Et en fait, j'ai fait toutes les planches qu'avec ces couleurs-là, même s'il y a des harmonies colorées qui semblent différentes. C'est toujours 8 couleurs, mais apposées différemment sur les planches, qui donnent des ambiances différentes. Donc voilà, j'ai bossé sur ça, parce que beaucoup m'ont dit « Ah, on pourrait croire à une sorte de sépia violet ». Et ce qui est vrai, on peut vraiment avoir ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette gamme. Ça s'est un peu imposé à moi. On ne va pas parler quand même de trucs divins ou j'étais touchée par la grâce. Pas du tout, mais c'est juste, je ne sais pas, j'avais envie de faire ça. je l'ai fait.
Non, mais par une espèce de mystère, je trouve que ça colle bien à l'époque et ça colle bien au
oui,
costume.
C'est vrai.
Ça colle à tout ça, quoi. Et voilà, j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à lire cet album. Et notamment, à partir dans la deuxième partie, il y a des planches en pleine page qui sont des portraits de femmes. Voilà, moi j'ai trouvé ça comment dire, c'est extrêmement touchant, voilà, j'ai même pas les mots pour dire à quel point ces portraits sont bouleversants.
Eh ben, merci beaucoup, ça me fait très plaisir.
Eh bien, Cyriel, je crois qu'on s'est presque tout dit, mais surtout, comme je dis maintenant à chaque fin d'émission, il faut lire l'album, il faut lire Radium Girl, qui est publié par les éditions Glénat. Ça fait, je crois, 120 pages, et c'est au prix de 22€. Voilà, on découvre des histoires de femmes et des histoires de capitalisme effréné, et surtout, on découvre votre travail, qui, je le répète, est absolument magnifique.
Et il faut regarder la couverture dans le noir.
Ah ben moi j'ai eu que les épreuves, alors j'ai pas eu encore la couverture.
Ah, parce que la couverture, il y a un petit truc dessus.
Ben je vais bientôt la voir, je l'ai commandé.
Ah, super bien, quand même.
Voilà.
Quand même. Ah oui, non mais okay, pas de soucis.
Déjà rien que les épreuves, c'était beau. Donc.
Ah ben merci.
Ben je vous remercie Cyriel et je vous dis à très bientôt.
À très bientôt, à une prochaine.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Wow.
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.